Mark Twain, le récent carnaval du crime dans le Connecticut. J'étais gai, presque enjoué. J'allumais un cigare et au même instant on apporta le courrier du matin. La première adresse que j'aperçus était d'une écriture qui fit passer un frisson de plaisir au travers de mon être. C'était de Tante Marie, la personne que j'aimais et honorais le plus au monde après mes pères et mères. Elle avait été l'idole de mon enfance. La maturité, fatale à tant d'enchantements, n'était pas parvenue à la renverser de son piédestal. Elle n'avait vu que justifier son droit et sa place, et mis son détrônement au rang des impossibilités. Pour montrer combien elle était grande au rang des impossibilités, il me suffira de dire que longtemps après que le « ne fumait donc plus » de toute autre personne avait cessé de m'affecter au plus léger degré, Tante Marie, en abordant ce sujet, pouvait encore provoquer quelques faibles signes de vie chez ma conscience en torpeur. Mais tout a une fin en ce monde. Il arriva le jour béni où même les paroles de Tante Marie cessèrent de m'émouvoir. Je ne fus pas seulement heureux de le voir arriver, j'en fus plus que ravi, j'en fus reconnaissant. Car, depuis l'aurore de cette journée, la seule chose qui put altérer ma joie d'être en compagnie de ma tante avait disparu. Le reste de son séjour avec nous, cet hiver-là, fut de tout point un plaisir. Naturellement, après ce beau jour béni, elle n'en plaida pas moins auprès de moi pour me faire abandonner cette pernicieuse habitude, mais sans le moindre résultat. À peine entamait-elle ce sujet, je devenais aussitôt d'une indifférence calme, paisible, résignée, d'une indifférence absolue, d'une indifférence de diamant. Aussi les dernières semaines de ce mémorable séjour s'écoulèrent-elles aussi agréablement qu'en rêve, tant elles furent pleines pour moi de satisfaction tranquille. Je n'aurais pas joui davantage de mon vice favori si mon gentil bourreau eût été fumeur et défenseur de l'usage du tabac. La vue de ces écritures me désira de revoir Tante Marie. Je n'eus pas de peine à deviner ce que contenait sa lettre. Je l'ouvris, oui, précisément, ce que j'attendais. Elle arrivait le jour même et par le train du matin. Je pouvais l'attendre d'un moment à l'autre. Je me dis, maintenant me voilà complètement heureux et content. Si mon ennemi le plus impitoyable apparaissait devant moi en ce moment, je redresserais volontiers tous les torts que je pus lui avoir faits. Au même instant, la porte s'ouvrit et un nain, chétif et ridé, entra. Il n'avait pas plus de 2 pieds de haut et paraissait âgé d'environ 40 ans. Chaque trait et chaque pouce de sa personne était une difformité. Et bien qu'on eût pu mettre le doigt sur aucune partie et dire « Oh, voici une difformité évidente », on voyait que ce petit être formait un tout mal fait, d'une difformité vague, générale, également bien répartie. Dans sa figure et ses petits yeux perçants, une astuce de renard mêlée de légèreté et de malice. Et cependant, ce vil morceau de décombres humains semblait présenter une sorte de ressemblance lointaine et mal définie avec moi. Elle apparaissait dans l'air, la tournure et même les vêtements, les gestes et les attitudes de la créature. C'était comme une obscure et lointaine représentation burlesque de moi-même, ma caricature en petit. Quelque chose en lui me frappa fortement, mais très désagréablement. Il était tout couvert d'une moisissure verdâtre et granuleuse, comme on en voit quelquefois sur le pain gâté. La vue en était nauséabonde. Il s'avança d'un pas délibéré et se laissa tomber avec flegme sur une chaise de poupée, sans attendre qu'on l'y invitât. Il jeta son chapeau dans le panier au chiffon, ramassa à terre ma vieille pipe d'écume, en frappa le fourneau deux ou trois fois sur son genou, labourra le tabac blanc qu'il prit dans le pot à côté de lui, et me dit d'un ton de commandement impertinent « Donnez-moi une allumette !» Je rougis jusqu'à la racine des cheveux, en partie d'indignation, mais surtout parce qu'il me paraissait, en quelque façon, que toutes ces manières ressemblaient à une exagération de la conduite dont je m'étais quelquefois rendu coupable dans mes relations avec mes amis intimes. « Mais jamais, jamais avec des étrangers, observai-je en moi-même. Bon, j'avais bonne envie de jeter le pygmée dans le feu, mais le sentiment incompréhensible que j'étais légalement et légitimement à ses ordres me força à obéir à son injonction. Il approcha l'allumette de la pipe, lança d'un air rêveur une ou deux bouffées et remarqua d'un ton exaspérément familier « Me semble qu'il fait un temps diablement mauvais pour la saison. » Je rougis de nouveau de colère et d'indignation, comme auparavant, car ce langage était comme une exagération de quelques propos que j'avais tenus dans la journée, et surtout cela était dit d'un ton de voix et avec une lenteur désespérante qui semblait un travestissement délibéré de ma façon de parler. Or, il n'y a rien qui me soit aussi sensible qu'une imitation moqueuse de la lenteur de mes paroles. Alors je lui dis d'un ton tranchant, « Faites attention, misérable brimborion, je vous prie de surveiller un peu vos manières ou je vous jette par la fenêtre. » Le petit bout d'homme eut un sourire de satisfaction malicieuse et de sécurité. Il lança d'un air de mépris une bouffée de mon côté et dit avec une lenteur encore plus étudiée « Voyons, soyez un peu aimable, ne faites pas trop de façons avec vos intimes. » Oh, cette froide raillerie me mit hors de moi, mais elle sembla aussi me subjuguer pour un moment. Le pygmée me considéra un instant de ses petits yeux perçants et me dit d'un ton particulièrement narquois. Vous avez fermé votre porte à un vagabond ce matin, je répondis avec humeur. Que je l'ai fait ou non, comment le savez-vous, vous? Ben, je le sais, mais que vous importe comment je le sais. Très bien, bon, admettons que j'ai fermé ma porte à un vagabond. Et après? Oh, rien, seulement. Vous avez menti. Non, c'est-à-dire, non, mais vous lui avez menti. Je me sentais coupable en réalité. J'avais éprouvé 40 fois un vif remords avant que le vagabond se fût beaucoup éloigné de ma porte. Je résolus cependant de prétendre à une calomnie de mes sentiments et je dis, mais voilà une impertinence gratuite. J'ai dit au vagabond, là, là, attendez, vous allez encore mentir. Je sais, moi, ce que vous lui avez dit. Vous avez dit que la cuisinière était sortie et qu'il ne restait rien du déjeuner. Deux mensonges. Vous saviez que la cuisinière était derrière la porte, cachant derrière elle de nombreuses provisions. Cette exactitude étonnante me réduisit au silence. Je me demandais avec étonnement d'où ce petit animal avait pu tirer ces informations. Sans doute il pouvait avoir surpris la conversation du vagabond, mais par quelle magie était-il parvenu à savoir que la cuisinière était cachée? Le nain continua. « Il est pitoyable et bas de votre part d'avoir l'autre jour refusé de lire le manuscrit de cette pauvre jeune femme et de lui donner votre opinion sur sa valeur littéraire. Elle était venue de si loin avec tant d'espoir, n'est-ce pas ?» Je me traitais de chien, mais comme je l'avais fait chaque fois que la chose m'était revenue à l'esprit, je puis bien l'avouer. Je rougis fortement et dis, Allez, dites-moi, n'avez-vous rien de mieux à faire que de rôder autour des affaires des autres? Que vous importe, on le fait, le reste pour moi. Vous avez fait cette chose méprisable. Et vous en avez eu honte ensuite. Ha ha! Vous en avez honte maintenant. Et il disait cela avec une joie diabolique. Je répondis avec une ardente vivacité. Oui, je dis à cette fille de la façon la plus douce et la plus aimable que je ne pouvais consentir à donner mon jugement sur un manuscrit de qui que ce fût, parce qu'un verdict individuel est sans valeur. Je puis déprécier un travail de grand mérite et ainsi en priver le monde. Ou bien je puis exalter une production détestable et contribuer ainsi à l'infliger à l'univers. Non, je lui ai dit que le grand public est le seul tribunal compétent pour porter un jugement sur un effort littéraire, qu'il est donc préférable de le présenter dès le début à ce tribunal, puisqu'en définitive, c'est la décision de cette cour puissante qui, de toute façon, fera son succès ou sa chute. Oui, vous l'avez dit, tout ça. Vous l'avez dit, charlatan, jongleur à l'âme vile. Et quand l'espoir du bonheur est disparu de la figure de cette pauvre fille, quand vous l'avez vue glisser furtivement sous son châle les feuillets qu'elle avait si patiemment et si soigneusement griffonnés, honteuse maintenant de l'enfant dont elle était si fière, quand vous avez vu la joie disparaître de ses yeux qui se mouillaient de larmes quand elle s'éleva si humblement, elle qui était venue si. Oh, paix, paix, paix! Cessez vos impitoyables discours. Toutes ces pensées ne m'ont-elles pas assez torturé sans que vous veniez encore les raviver? Leur remords, leur remords. Il me semblait qu'ils me dévoraient le cœur. Et cependant, seul ce petit démon était là, me dévisageant avec joie et mépris et riant paisiblement. Puis il recommença à parler. Chaque phrase était une accusation. Et une accusation vraie. Chaque proposition était empreinte de sarcasme et de moquerie. Chaque mot, lentement distillé, brûlait comme du vitriol. Le nain me rappela les fois où, dans ma colère, j'avais battu mes enfants et les avais punis pour des fautes qu'un court examen m'aurait démontré n'avoir pas été commises par eux. Il me rappela comment j'étais. J'avais déloyalement laissé calomnier de mes meilleurs amis, en ma présence, assez lâches pour ne pas dire un mot pour leur défense. Il me rappela maintes choses malhonnêtes que j'avais faites ou fait faire par des enfants et autres gens irresponsables, plusieurs que j'avais projetées, auxquelles j'avais songé, que j'avais souhaitées, mais que je n'avais pas accomplies par crainte des conséquences. Avec une cruauté exquise, il énuméra tous les torts que j'avais eus, toutes les indélicatesses que j'avais commises envers des amis, morts depuis, et toutes les humiliations que je leur avais imposées, ajoutant, pour empoisonner le poignard, qu'ils étaient morts, pensant peut-être à ces injustices, et les déplorant. Par exemple, dit-il, prenez le cas de votre frère cadet. Alors que vous étiez enfants tous deux, il y a bien longtemps de cela. Il suffisait toujours avec vous. Nos perfidies multiples ne pouvaient ébranler. Il vivait comme un chien, heureux d'endurer votre méchanceté, vos exactions, pourvu qu'il fût avec vous, supportant ces injustices tant qu'elles étaient de votre fait. Le dernier portrait que vous ayez de lui, plein de force et de santé, doit vous être d'une bien grande consolation. Vous avez juré sur votre honneur que s'il voulait se laisser bander les yeux, il ne lui arriverait aucun mal. Et tout en ricanant du rare agrément de la plaisanterie, vous l'avez conduit à un ruisseau couvert d'une mince couche de glace dans lequel vous l'avez poussé. Et comme vous avez ri! Homme, quand vous riez 1000 ans, vous n'oublierez jamais les deux regards pleins de reproches qu'il vous jeta en se débattant, tout en grelottant de froid. Oh, vous le voyez maintenant! Vous le voyez maintenant! Mais brune, je l'ai vue 1 million de fois, et le reverrai encore un million de fois. Et pour me l'avoir appelé, puissiez-vous tomber peu à peu en pourriture et souffrir jusqu'au jugement dernier ce que je souffre maintenant. » Le nain sourit gaiement et continua son histoire accusatrice de ma carrière. Je m'affaissai dans un état de noire mélancolie et de désir de vengeance, souffrant en silence sous ce fouet impitoyable. À la fin, la remarque suivante me réveilla soudain. « Il y a 2 mois, un mardi, vous vous êtes réveillé pendant la nuit et vous vous êtes mis à penser, avec honte, à un de vos actes particulièrement vil et pitoyable envers un pauvre Indien ignorant dans les solitudes des montagnes rocheuses pendant l'hiver de 1800. Halte là, démon, halte là. Prétendez-vous me dire que mes pensées même ne vous sont pas cachées ? On dirait. N'avez-vous pas eu les pensées dont je viens de parler ? Mais si je ne les ai pas eues, que je ne respire plus jamais. Mais regardez-moi, mon ami, regardez-moi bien dans les yeux. Qui êtes-vous ? Mais qui pensez-vous que je sois ? Ben, je pense que vous êtes Satan en personne. Je pense que vous êtes le diable. Non ? Non, alors qui pouvez-vous bien être ? Désirez-vous réellement le savoir ? Certes. Eh bien, je suis votre conscience. En un instant, je fus au comble de la joie et du bonheur. Je m'élançai sur la créature, rugissant. Maudite soyez-vous, mais je désirais 100 000 fois que vous fussiez tangible et qu'il me fût possible de vous mettre un jour la main à la gorge. Mais je vais me tirer une vengeance mortelle de... Insensé. L'éclair n'est pas plus prompt que le fut ma conscience. Elle s'envola si soudainement qu'au moment où mes doigts saisissaient l'air vide, elle était déjà perchée en haut de la bibliothèque, me faisant un pied de nez en signe de dérision. Je lui lançai le tisonnier, mais je le manquai. Je jetai le tire-botte, je courais de place en place, saisissant et lançant violemment tous les projectiles qui me tombaient sous la main. Cette tempête de livres, d'encriers, de morceaux de charbon obscurcissait l'air et frappait sans relâche sur le perchoir du gnome, mais sans résultat. L'agile personnage esquivait tous les coups, mais bien plus. Il éclata d'un rire sarcastique et triomphant quand je m'assis épuisé. Tandis que je haletais et soufflais de fatigue et de colère, ma conscience m'adressa la parole en ces termes. « Mon bon esclave, vous manquez curieusement, oh non, je veux dire caractéristiquement, d'esprit. À la vérité, vous êtes conséquent, vous restez toujours vous-même, toujours un âne. Autrement, vous auriez peut-être eu l'idée que, si vous aviez tenté ce meurtre, le cœur triste et la conscience lourde, je me serais affaissé immédiatement sous cette influence ensevelissante. Fou, j'aurais pesé 1 tonne et n'aurais pu quitter le plancher. Mais au contraire, vous êtes si gai à l'idée de me tuer que votre conscience est légère comme une plume. Aussi suis-je bien hors de votre portée. Oh, je pourrais peut-être respecter un simple fou ordinaire, mais vous, pouah! J'aurais donné beaucoup pour que ma tristesse pût faire descendre de là cette personne, de façon à me mettre à même de lui enlever la vie, mais je ne pouvais pas plus être triste avec un tel désir que je n'aurais été affligé de son accomplissement. Je ne pouvais que regarder mon maître avec impatience et enragé du malheur qui me refusait une conscience lourde la seule fois de ma vie où j'en aurais eu besoin. Peu à peu, je me mis à réfléchir à l'étrangeté de l'aventure, et naturellement, ma curiosité d'homme commença à travailler. J'imaginais quelques questions à lui poser, quand un de mes enfants entra, laissant la porte ouverte derrière lui, et s'écriant : « Quoi ? Que s'est-il donc passé ici? La bibliothèque est un vrai crible. Je m'élançai consterné, criant: Sortez vite, courez, volez, fermez la porte, vite, ou ma conscience va s'échapper. La porte se ferma avec bruit et je mis le verrou. Je regardai en l'air et au fond du cœur, j'éprouvai une vraie reconnaissance, savoir que mon maître était encore mon prisonnier. Je lui dis: Diable, j'aurais pu vous perdre. Les enfants sont des créatures si distraites. Mais dites-moi, mon ami, l'enfant n'a pas eu l'air de vous remarquer du tout. Comment cela se fait-il? Mais pour une bonne raison, je ne suis visible que pour vous. Intérieurement, je pris note de ce renseignement avec grand plaisir. Je pouvais donc tuer ce mécréant si l'occasion s'en présentait, et personne n'en saurait rien. Mais cette réflexion me rendit le cœur si léger que ma conscience pouvait à peine rester en place et semblait flotter en l'air contre le plafond comme un petit ballon de baudruche. Je lui dis bientôt: Voyons, ma conscience, soyons amis. Voyons, ma conscience, soyons amis. Déployons l'étendard de paix pour un moment. J'ai grande envie de vous poser quelques questions. Très bien, commencez. Dites-moi donc d'abord pourquoi je ne vous ai jamais vu. Parce que vous n'aviez jamais demandé à me voir. C'est-à-dire que vous ne l'aviez jamais demandé dans une disposition d'esprit convenable, ni dans la forme voulue. Cette fois, vous étiez dans la meilleure disposition, et quand vous avez appelé votre ennemi le plus impitoyable, j'étais cette personne au plus haut chef, sans que vous vous en doutiez. Ah, c'est donc cette remarque qui vous a fait de chair et d'os. Non, elle m'a simplement rendu visible pour vous. Je suis immatériel comme tous les autres esprits. Cette remarque me déçut cruellement. S'il était immatériel, comment allais-je le tuer? Mais je dissimulai et lui dis d'un ton engageant: Conscience, il n'est pas aimable de votre part de vous tenir à une telle distance. Descendez, fumez une autre pipe. Il répondit d'un regard plein d'ironie, auquel il ajouta l'observation suivante: Ah oui, venir, vous pouvez me saisir et me tuer. L'invitation est déclinée avec remerciement. Parfait, me dis-je. Il semble donc qu'on peut tuer un esprit en somme. S'il n'y a pas bientôt en ce monde un esprit expirant, je veux perdre mon nom. J'ajoutai tout haut: Mon ami, oh là, attendez un instant. Je ne suis pas votre ami, je suis votre ennemi. Je ne suis pas votre égal, je suis votre maître. Appelez-moi mon seigneur, s'il vous plaît. Vous êtes trop familier. Oh, je n'aime pas de tels titres. Je veux bien vous appeler monsieur. C'est tout ce que. Ah, ne discutez pas là-dessus. Ah, mais ici, voilà tout. Allez, continuez votre babil. Très bien, monseigneur, puisque ce titre vous convient seul. J'allais vous demander combien de temps vous serez visible pour moi. Et toujours? J'éclatai d'une vive indignation. Mais c'est tout simplement honteux. Voilà ce que j'en pense. Invisible, vous m'avez harcelé, harcelé et harcelé tous les jours de ma vie. C'était une assez grande misère. Mais voir un être de votre extérieur me suivre comme une autre ombre tout le reste de mes jours, oh, c'est une perspective intolérable. Voilà mon opinion, monseigneur. Faites-en votre profit. Mon garçon, il n'y a jamais eu de par le monde une conscience aussi heureuse que je l'étais quand vous m'avez rendu visible. Cela me donne un avantage inconcevable. Maintenant, je puis vous regarder dans les yeux, vous donner des épithètes, sourire de vous, me jouer de vous ricaner en face de vous. Et vous savez l'éloquence d'un geste, d'une expression visible, surtout quand l'effet en est augmenté par des paroles. Désormais, je m'adresserai à vous dans votre propre traînaillement, pleurnicheur. Bébé. Je lui lançai la caisse à charbon sans résultat. Mon seigneur me dit: Allons, souvenez-vous de l'étendard de paix. Ah oui, je l'oubliais. J'essaierai d'être poli, mais vous tâchez aussi de l'être pour la curiosité du fait. L'idée d'une conscience polie, quelle bonne plaisanterie, quelle excellente plaisanterie. Toutes les consciences dont j'ai jamais entendu parler étaient d'exécrables sauvages. Oui, et suant sang et eau à propos de la plus insignifiante vétille. Que le diable détruise toute la bande. Je changerai la mienne contre la petite vérole et cette espèce de consomption que je n'estimerais encore heureux de l'échanger. Dites-moi maintenant, pourquoi donc une conscience, après avoir mis un homme sur des charbons ardents pour une faute, ne l'abandonne pas? Pourquoi continue-t-elle à le harceler jour et nuit et jour, de semaine en semaine et à jamais, pour un fait déjà ancien? Cela ne signifie rien, il n'y a aucune raison pour cela. Je pense qu'une conscience qui agit ainsi est encore plus vile que la faute elle-même. Eh bien, c'est que nous aimons cela, voilà tout. Mais agissez-vous ainsi dans le but de rendre l'homme meilleur? Non, monsieur, excusez-moi. Nous le faisons parce que c'est notre travail, c'est notre métier. Le but de cette poursuite acharnée est d'améliorer l'homme, mais nous ne sommes que des agents désintéressés. Nous sommes nommés par l'autorité et n'avons rien à dire sur la question. Nous obéissons à ses ordres et laissons le soin des conséquences à qui de droit. Mais je veux bien admettre que nous outrepassons quelquefois les ordres, quand nous en trouvons l'occasion, ce qui est le plus fréquent. Nous aimons cela. Nous avons l'ordre de rappeler plusieurs fois à l'homme une erreur, mais j'avoue que nous faisons très bonne mesure. Quand nous mettons le grappin sur un homme d'une nature particulièrement sensible, oh, comme nous l'effrayons! Des consciences sensibles, oh, ma connaissance de Chine, de Russie, pour voir mettre hors d'elle-même une personne de ce naturel dans une occasion donnée. Bien plus, j'ai connu un de ces hommes qui avait blessé accidentellement un bébé mulâtre. La nouvelle s'est répandue, et je veux que vous me connaissiez plus de péchés si les consciences ne se réunirent pas de tous les points de la terre pour jouir de la plaisanterie et aider son maître à le harceler. Cet homme, dans sa torture, arpenta sa chambre pendant 48 heures, sans manger ni dormir, et finit par se brûler la cervelle. Et au bout de 3 semaines, l'enfant était complètement guéri. Ah, vous êtes une précieuse bande, pour ne pas employer l'expression trop forte. Je crois que je commence à voir pourquoi vous m'avez paru légèrement contradictoire. Dans votre soif de retirer d'un péché tout le jus possible, vous en faites repentir l'homme de 3 ou 4 manières différentes. Par exemple, vous m'avez trouvé coupable d'avoir menti à ce vagabond, et j'en ai souffert. Mais y a-t-il quelque moyen de satisfaire cette invention maligne qu'on appelle une conscience? Ah ah, quel plaisir, continuez donc. Répondez d'abord à ma question. Y a-t-il un moyen? Aucun que je compte vous dire, mon fils. À peu près n'importe quel acte que vous allez accomplir, je n'ai qu'à vous souffler dans l'oreille un mot pour vous faire croire que vous avez commis une terrible vilenie. C'est mon devoir et ma joie de vous faire repentir de tout ce que vous faites. Si j'ai négligé quelques occasions, ce n'est pas un dessein. Je tiens à vous assurer que ce n'est pas un dessein. Oh, ne vous y affligez pas. Vous n'y avez pas manqué une fois, que je sache. De ma vie, je n'ai rien fait de vertueux ou non dont je me sois repenti dans les 24 heures. Vous ne m'avez jamais laissé aller à un sermon de charité sans avoir quelque chose à me reprocher. Oh, vous ne le ferez jamais, jamais. Vous dépendez toujours de moi. Je le pense bien. Elles sont nombreuses, les nuits sans repos, où j'aurais bien voulu vous tenir à la gorge. Oh, si je pouvais seulement vous attraper à présent. Oui, sans doute, mais je ne suis pas un âne. Je ne suis même pas le bas d'un âne. Continuez, continuez. Vous m'égayez beaucoup, plus que je ne voudrais l'avouer. J'en suis heureux. Vous ne vous arrêterez pas un peu à mon mensonge pour ne pas en perdre l'habitude. Mais vous voyez, pour ne pas être par trop personnel, je pense que vous êtes presque le plus gueux, le plus méprisable petit reptile rabougri qu'on puisse imaginer. Je suis bien enchanté que vous soyez invisible aux autres, car je mourrais de honte d'être vu avec une pourriture simiesque de conscience telle que vous. Si vous aviez 5 ou 6 pieds de veau, et... Mais à qui en est la faute? Je n'en sais rien. Mais à vous seul, taisez-vous. On ne m'a pas consulté sur votre apparence extérieure. Qu'importe, vous y avez contribué, néanmoins pour une large part. Quand vous aviez 8 ou 9 ans, j'avais 7 pieds de haut et étais aussi joli qu'une peinture. Vous auriez bien dû mourir jeune. Ainsi, vous avez poussé de mauvaises manières, n'est-ce pas? Oh, les uns poussent d'une façon, les autres d'une autre. Autrefois, votre conscience était grande. Si elle est petite maintenant, j'estime qu'il y a des raisons à cela. Cependant, nous sommes blâmables tous deux, vous et moi. Voyez-vous, vous étiez consciencieux pour beaucoup de choses. Vous l'étiez morbidement, si je puis dire, il y a bien des années de cela. Vous ne vous en souvenez probablement pas. Je prenais donc un grand intérêt à mon travail et je jouissais de l'angoisse dans laquelle vous plongez certains de vos petits péchés que je continuais à vous reprocher jusqu'à satiété. Et déjà, vous vous rebiffiez un peu. Je commençais donc à prendre du terrain, à me rider un peu, à diminuer de taille, à pourrir et à me déformer. Et plus je faiblissais, plus vous retombiez dans vos péchés avec obstination, à tel point qu'enfin les parties de ma personne qui représentent ces vices devinrent aussi calleuses qu'une peau de requin. L'usage du tabac, par exemple. Je jouais cette carte un peu trop longtemps et perdis. Aujourd'hui, quand quelqu'un discute pour vous faire quitter cette habitude, cette vieille partie calleuse semble s'étendre et me couvrir tout entier comme une cotte de mailles. Oh, c'est un effet mystérieux, étouffant, et bientôt moi, votre fidèle ennemi, votre conscience dévouée, je m'endors profondément. Profondément, oh, le mot n'est pas assez fort. À ce moment-là, je n'entendrai pas le tonnerre. Vous avez quelques autres vices, peut-être 80, peut-être 90, qui m'affectent de la même façon. Ah, oh, c'est flatteur, mais vous devez dormir pendant une bonne partie de votre existence. Oui, dans ces dernières années. Oh, je dormirai bien tout le temps, sans les secours qu'on m'apporte. Mais qui vous secourt? Oh, d'autres consciences! Quand une personne dont je connais la conscience plaide auprès de vous contre les vices pour lesquels je suis calleux, je charge mon ami de suggérer à son client un remords touchant, quelqu'une de ses propres bassesses, ce qui interrompt son intervention et l'envoie à la chasse de consolations personnelles. Mon champ d'utilité est à peu près réduit aux vagabonds, aux femmes auteurs et autres marchandises de même genre. Mais ne vous en affligez point. Je vous harcèlerai là-dessus tant que cette corde vibrera. Vous pouvez vous fier à moi. Je le crois, mais si vous aviez été assez bon pour m'avertir de tout cela il y a quelque 30 ans, j'aurais porté toute mon attention à pécher. Et je pense qu'à présent, non seulement vous dormiriez sans interruption pour la liste entière des vices humains, mais vous en seriez réduit à la taille d'une pilule homéopathique. Voilà à peu près l'espèce de conscience à laquelle j'aspire. Si vous avez seulement réduit à cette taille, Et si je pouvais vous mettre la main dessus, vous aurais-je mis dans un bocal pour vous garder en souvenir? Non, monsieur, je vous aurais donné un chien. Voilà où l'on devrait vous jeter, vous et toute votre tribu. Vous n'êtes pas faite pour vivre en société, à mon avis. Maintenant, une autre question. Connaissez-vous quelques conscients dans cette section? Beaucoup. Je donnerai quelque chose pour en voir quelques-unes. Pouvez-vous les amener ici et seraient-elles visibles pour moi? Ah non, certes. Oh, j'aurais bien dû m'en douter, sans le demander. Mais au moins, pouvez-vous me les dépeindre? Parlez-moi de la conscience de mon voisin Thompson, s'il vous plaît. Très bien, je le connais intimement et depuis de longues années. Je l'ai connu quand il avait 11 pieds de haut et une figure irréprochable. Mais il est très ridé, maigre et déformé. Il n'intéresse plus à rien, ou à peu près. Quant à sa taille actuelle, eh bien, il dort dans une boîte à cigares. Ah, c'est bien assez. Il y a peu d'hommes plus bas et plus vils dans le pays que Thompson. Connaissez-vous la conscience de Robinson? Oui, c'est une ombre de 4 pieds et demi. Il était blond autrefois, il est brun maintenant, mais toujours bien fait et bien coiffé. Robinson est un bon garçon. Connaissez-vous la conscience de Tom Smith? Oh, je le connais depuis l'enfance. Il avait 13 pouces de haut et était un peu faible à l'âge de 2 ans, comme nous le sommes presque tous à cet âge. Oh, il a maintenant 37 pieds de haut, c'est la plus belle figure de l'Amérique. Ses jambes sont bien un peu attaquées, mais il va bien néanmoins. Il ne dort jamais. Oh, c'est le membre le plus actif et le plus énergique du Conscience Club de la Nouvelle-Angleterre. Il en est président. Jour et nuit, on le trouve harcelant Smith, acharné à cette tâche, les manches relevées, la figure animée par la joie. Il tient sa victime complètement dans sa main. Il peut faire croire au pauvre Smith que la chose la plus innocente qu'il fait est un odieux péché. Et alors il se met au travail et torture son âme à ce sujet. Mais Smith est l'homme le plus noble et le plus pur de toute la section, et cependant il se lamente sans cesse de n'être pas bon. Il n'y a qu'une conscience qui puisse trouver du plaisir à amonceler l'agonie sur un esprit pareil. Connaissez-vous la conscience de ma tante Marie? Bon, je l'ai vue à distance, mais je la connais pas. Elle vit en plein air, car il n'y a pas de porte assez large pour lui permettre de passer. Je le crois bien. Voyons, connaissez-vous la conscience de ce publiciste qui m'a volé quelques-unes de mes nouvelles pour un de ses recueils et qui m'a laissé payer les frais de procès que je vais intenter à ce sujet? Oui, oh, il est très célèbre. On l'a exposé il y a un mois, mais avec d'autres antiquités, au bénéfice de la conscience d'un nouveau membre du cabinet qui partait pour l'exil. Le prix du voyage et de l'entrée était élevé, mais je voyageais pour rien. En prétendant être la conscience d'un éditeur, et payer moitié place en me présentant comme la conscience d'un ecclésiastique. Cependant, la conscience du publiciste, qui devait être le clou de la fête, était un leurre comme exhibition. Il y était, mais qu'importe. L'entrepreneur avait fourni un microscope d'un pouvoir grossissant de 30 000 diamètres seulement. Aussi, personne ne parvint à le voir. Le mécontentement du grand et général, naturellement, mais à ce moment, un pas lourd se fit entendre dans l'escalier. J'ouvris la porte et ma tante Marie s'élança dans la chambre. Ce fut un embrassement joyeux, suivi d'un gai bombardement de questions et de réponses sur des affaires de famille. Au bout d'un instant, ma tante me dit: Oh, je vais abuser de vous maintenant. Vous m'avez promis, la dernière fois que je vous ai vu, de veiller aux besoins de la pauvre famille du coin avec autant de sollicitude que que je leur ai fait moi-même. Eh bien, j'ai appris par hasard que vous avez manqué à votre promesse. Était-ce bien ? À vrai dire, je n'avais plus donné une pensée à cette femme, à cette famille. Maintenant, j'en sentais un vif remords. Je regardais ma conscience. Évidemment, ma tristesse l'affectait. Son corps se balançait en avant. Il semblait près de tomber de la bibliothèque. Ma tante continua. Songez, comme vous avez négligé ma malheureuse protégée de la maison des pauvres, mon cher mauvais cœur et parjure. Je devins écarlate sans pouvoir parler. À mesure que le sentiment de ma coupable négligence me poursuivait plus aigu et plus fort, ma conscience vacillait plus lourdement. Et quand ma tante, après une pause, me dit d'un air affligé, puisque vous n'êtes pas retourné la voir, il vous sera indifférent d'apprendre que cette pauvre enfant est morte il y a plusieurs mois, absolument délaissée et sans amis. Ma conscience ne put supporter plus longtemps le poids de mes souffrances. Elle tomba la tête la première de son perchoir et frappa le plancher d'un bruit sourd. Elle resta étendue, soupirant de douleur, et tremblant de peur, mais raidissant tous ses muscles dans des efforts prodigieux pour se relever. Enfiévré par l'espoir, je me précipitai sur la porte, la fermai à clé, m'y appuyai le dos et abaissai mon regard attentif sur mon maître. Déjà mes doigts brûlaient de commencer leur œuvre meurtrière. « Oh, qu'y a-t-il donc ?» s'écria ma tante, s'éloignant de moi et suivant des yeux la direction de mon regard. Ma respiration devenait haletante, rapide, entrecoupée, et mon excitation presque forcenée. Ma tante s'écria. « Oh, ne regardez pas ainsi, vous m'épouvantez. Mais qu'y a-t-il donc? Que voyez-vous? Pourquoi lancez-vous de pareils regards? Pourquoi travaillez-vous vos doigts de cette façon ?»« Mais, femme, m'écriai-je, regardez ailleurs, ne faites pas attention à moi. Ce n'est rien, rien, non. Je suis souvent ainsi. Cela ne durera qu'un instant, c'est un effet du tabac. » Mon maître offensé était debout, le regard effaré, essayant de se traîner jusqu'à la porte. Je pouvais respirer à peine tant j'étais surexcité. Ma tante joignit les mains et s'écria. « Oh, je savais bien ce qui adviendrait. Je savais que vous finiriez par là. Oh, je vous en supplie d'abandonner cette fatale habitude avant qu'il soit trop tard. Vous ne devez pas être, vous ne serez pas plus longtemps sourd à mes supplications. » Ma conscience donna des signes soudains de faiblesse. « Oh, promettez-moi de secouer le joug horrible du tabac !» Ma conscience commença à soupirer, à se détirer. « Spectacle enchanteur !»« Je vous prie, je vous supplie, je vous implore, votre raison vous abandonne. Il y a de la folie dans votre regard, il est un sel de frénésio. Écoutez-moi, écoutez-moi et soyez sauvés. » « Voyez, je vous en conjure à genoux. » Comme elle s'agenouillait devant moi, ma conscience soupira de nouveau, s'affaissa languissamment sur le plancher, m'adressant d'un regard appesanti une dernière demande de grâce. « Oh, promettez ou vous êtes perdu. Promettez et soyez sauvés. Promettez, promettez et vivez !» Ma conscience, vaincue, ferma les yeux en poussant un long soupir et ne tarda pas à s'endormir. D'un élan vainqueur, je m'élançai derrière ma tante et en un clin d'œil, je tenais à la gorge mon ennemi mortel. Après tant d'années d'attente et de patience, il était en mon pouvoir. Oh, je le mis en morceaux dont je fis d'autres morceaux. Je jetai au feu la dépouille sanglante et aspirer avec joie l'encens de mon sacrifice. Enfin et pour toujours, ma conscience était morte. J'étais libre. Je me tournais vers ma pauvre tante qui était comme pétrifiée de terreur et j'éclatais. Hors d'ici, avec vos pauvres, vos charités, votre morale pestilentielle. Vous voyez devant vous un homme dont le combat vital est achevé, dont l'âme est en paix, un homme dont le cœur est mort au chagrin, mort à la souffrance, mort au remords, un homme sans conscience. Dans ma joie, je vous épargne, et cependant, je pourrais vous détruire sans en éprouver un remords. Filez! Elle partit. Depuis ce jour, ma vie est toute de bonheur, bonheur sans mélange. Rien au monde ne me déciderait à avoir une autre conscience. Je réglais mes vieilles affaires et recommençais la vie à nouveau. J'ai tué 38 personnes dans les 2 premières semaines. Toutes pour d'anciens griefs. Je brûlais une maison qui gênait ma vue. Je ravis à une veuve et à ses enfants leur dernière vache, qui était excellente, quoique mal nourrie, je présume. Oh, j'ai commis aussi quantité de crimes de toute espèce, et ce travail me plaît extrêmement, tandis qu'autrement il m'aurait brisé le cœur et aurait fait blanchir mes cheveux sans aucun doute. Pour finir, je dois dire en manière d'annonce que les écoles de médecine qui désiraient des cadavres assortis pour études scientifiques, soit à la grosse, soit à la corde, soit par tonne, feront bien d'examiner le lot que j'ai dans ma cave avant de faire leurs achats, car je les ai choisis et préparés moi-même, et je les donnerai à bon marché, étant dans l'intention de liquider mon stock, afin d'être prêt pour la saison du printemps.